Léon-Paul Fargue, mort du fantôme. C'était ma foi une rue bien paisible avant l'arrivée du fantôme, de monsieur le fantôme, comme disait ma concierge, à qui l'on avait fait croire qu'il y en avait de plusieurs sortes, des riches et des pauvres, des bons et des méchants. Et dans le brave dessein de se rassurer, elle ajoutait, en me tendant le catalogue des Galeries Lafayette ou le bulletin de souscription à l'œuvre des orphelins du Mont-Piété, « Il n'est pas si diable qu'il se fait noir. » Enfin, lui expliquai-je qu'il fallait distinguer qu'il y avait les diables et le diable avec un grand D, les fantômes, les apparitions, les esprits, les gnomes, les gavalouses, les cryvanos et les perfides colbassons qui ont des ongles d'homme, des cheveux de grenouille et des réticences de vieux chevaux de course. Mais la bonne femme ne se laissait pas convaincre. Le fantôme, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Moi, le diable, disait-elle. Appelez-le comme vous voudrez, c'est toujours la même chose. D'abord, vous n'avez qu'à demander à monsieur Loiselier, puisqu'il l'a vu. Oui, c'était une rue comme on n'en fait plus, guère. Douce, accueillante, toujours prête à vous consoler au retour des longues marches, bien portantes, ne craignant ni la pluie, ni les affiches, ni les travaux. Et voilà qu'un jour, un certain monsieur Droiturier, l'orphelin du 18, qui vivait dans une petite pièce mansardée, tout seul, et qui gagnait 750 francs par mois chez un marchand de fer à mettre de la limaille dans une des wagonnets, Droiturier, à qui la concierge disait monsieur comme au fantôme, parce qu'il jouait aux cartes dans un quartier domestique, parce qu'il entrait parfois en taxi. Voici que monsieur Loiturier avait aperçu un soir, comme il revenait à pied du cinéma, un spectre. Quelque chose de blanc et de rapide, quelque chose comme un nuage pressé, un nuage qui avait peur d'arriver en retard à l'orage, m'expliquait un ancien valet de chambre qui avait ouvert une boutique de couturier sous les fenêtres. Lui-même n'avait pas vu la chose, mais dès le premier jour, il s'était offert à centraliser les descriptions que lui faisaient les habitants de la rue. « J'ai toujours cru aux apparitions, ajoutait-il, comme je crois aux éruptions volcaniques et aux mines d'or, mais j'ai jamais été témoin de ces phénomènes. Or, pour ce qui est du fantôme de M. Droiturier, il a passé si près de sa maison et de mon magasin que je ne puis en douter. Il avait même frôlé ma porte, dit M. Droiturier. Transparent, rebondissant, tantôt large et tantôt mince, comme une bonne fumée de gare dans un endroit où régnait un petit courant d'air, il marchait, lui pas des hommes. Qui sait si vous ou moi nous ne nous sommes pas pris pour un promeneur égaré? Une semaine plus tard, on ne s'entretint plus que de ce revenant. Les uns l'avaient vu sortir de la bouche d'un égout, comme fait au théâtre le Méphistophélès de Faust. Les autres l'avaient vu descendre de taxi, régler sa course et entrer au 23 sur la pointe des pieds, ce qui permettait aux partisans d'une troisième thèse de prétendre qu'il s'agissait d'une femme et que le dentiste du 23, dont la femme légitime passait la moitié de sa vie à l'hôpital, était bien libre d'en prendre une autre. Mais au pied du mur, ses commentateurs ne faisaient aucune difficulté pour reconnaître qu'il n'y avait pas de bouche d'égout dans la rue et que le dentiste avait une vie irréprochable. Et comme tout le monde, il parlait pour parler, et parce qu'il n'est pas adroit, pense les simples de passer le surnaturel sous silence. Seul Monsieur Droiturier ne disait rien. Quand on le pressait de questions, il répondait qu'il avait vu le fantôme traverser la rue, qu'il n'avait plus rien à ajouter. On inventa mille stratagèmes pour le faire parler. Le marchand de vin l'appelait pour lui offrir un apéritif. Le crémier lui proposa du crédit, le boucher l'avertissait qu'il mettait de côté à son intention les plus tendres entrecôtes. Des cochers s'attardaient dans la rue en souhaitant de voir apparaître devant le 18 ce personnage fait de savoir à savon à barbe et de blanc manger. Il n'avait pas encore eu, selon eux, le temps matériel de s'enfuir. Et la grande nouvelle allait son train. Monsieur Droiturier s'était contenté de voir, mais les autres s'acharnaient à décrire, à préciser, à sortir de leur mémoire pour opposer au nouveau venu le vieux fantôme de leur jeune âge. On ne les écoutait guère, le meilleur de l'attention de la rue ayant été absorbé par le spectre récent, car le passé ne compte pas. Et la croyance, peu à peu, s'établissait, s'enfonçait dans la substance des immeubles comme une saison. Ceux qui essayaient de s'y soustraire étaient rappelés au sentiment de la réalité par un craquement de casserole en pleine nuit, par l'arrêt brusque des montres, la disparition d'un tisonnier, ou le coup de sonnette imprévu d'un livreur qui s'était trompé de porte. Vint une période de pluie à odeur de canal, couvrant les fenêtres de zébrures, d'éclaboussures de ciel, de larmes, qui facilitèrent les suppositions. Le soir, avant de se glisser auprès de leurs femmes chaudes, les hommes se croyaient sur la piste du lutin. Des nuages couraient au bas des vitres avec la rapidité des araignées. Les camions semblaient se glisser sous les maisons comme des taupes et les secouer. Les concierges des 46 immeubles de la rue se réunirent un jour chez le marchand de vin sous prétexte de participer à un tournoi de manille, cherchèrent en vain une méthode. Le fantôme n'était plus que murmure, coup de tonnerre, éclaircie, chat noir, pressentiment, hurlement de sirène. Il se refusait à se montrer une seconde fois sous les traits du vrai fantôme. On avait beau l'attendre à la même place, là où l'avait aperçu Monsieur Drouet, il demeurait invisible. Le soir, quand je descendais dans la rue, je lui trouvais une odeur de piétinement, un goût de chaussures mouillées, de pantalons mijotés dans la pluie, qui me chantait sur tous les tons que l'on avait attendu, fait la queue des heures entières, durant la gorge serrée par un désir de fantôme. Je voyais, debout devant leur boutique, le marchand de charbon, le cordonnier, le grainetier, dont les ombres longues et luisantes s'allongeaient sur la confiture du trottoir comme des ombres de peupliers. La rue, toutes fenêtres éclairées, se balançait lourdement comme un paquebot. La mer était calme et épaisse. La marchande de salade et de bananes remisait sa table de ping-pong sous une voûte aux cariatides malpropres. Quelques taxis se succédaient dans une nuit de scierie, un bruit de scierie. Et au carrefour, un tramway évoluait avec peine dans un bousquet de badauds comme un char de carnaval. La radio, le phonographe et les cris d'enfants dont on sucre l'érythème s'unissaient dans un concert cachectique, grippé, qui filtrait par le papier peint, les linges pendus, le carreau mal assujetti, s'éparpillait en pleine rue comme une musique d'orgue de barbarie. Toutes les mains d'hommes avaient envie de jeter deux sous dans les appartements. Des ouvriers n'en finissaient pas de chercher des motifs pour ne rentrer chez eux qu'une demi-heure, une heure plus tard. Ils restaient debout dans la copote de pruneaux de cette fin d'hiver, un quart de bruit en poche, l'œil mouillé et sérieux, curieux, pareil à celui qu'on retire des œillères. Des ménagères pendaient aux fenêtres avec des chevelures de 14 juillet, des goîtres et du linge de la chauve-souris. Des filles leucorhéiques prétextaient des courses dans le quartier et tendaient en courant dans la rue des cours d'hippocampe. Les vieux murmuraient dans leurs draps moites, réclamant des tisanes, des surdités, des agonies. Alors on les rassurait en leur disant que le fantôme ou le vampire ou le périgal à espadrilles, le phylloxéra à bicyclette, la gorgone fourchue, le matamata, allait enfin s'échapper d'un quinquet, sortir d'une ruelle, se manifester au-dessus d'une soupe, et le vieux replongeait dans un demi-sommeil, déjà tout imprégné. Je marchais dans une sorte de halo nasillard, fait de chuchotements et de lumière. La rue était lourde à mes épaules, comme un chagrin. Elle palpitait. Elle avait accueilli des mouvements venus des caves et des toits. Elle n'avait plus de milieu, plus de centre, plus de cohésion. Le menuisier n'était plus chez lui entre 5 et 7, comme depuis l'assassinat de Concini. La blanchisseuse me remettait régulièrement deux mouchoirs d'agent de police et une chemise de plongeur dans le tissu de laquelle le mandarin Curaçao le disputait au chlore. La fenêtre de l'expert comptable qui me guidait dans la nuit ne s'allumait plus que 3 quarts d'heure plus tard. Le bonhomme ayant décidé de s'offrir une méditation d'apéritif avant de rentrer chez lui. Je devinais que le sifflement des hommes qui frôlaient les portes cochères comme une balle n'était plus un ordre d'amour, que les filles se faisaient embrasser, l'oreille tendue et l'œil entrouvert pour ne pas rater le farfadet. Ainsi, n'osez-vous pas lire un journal si vous attendez le coup de téléphone de la femme aimée. Vous avez beau vous asseoir à côté de l'appareil et le caresser comme un chat, ça ne calmera pas les battements de votre cœur. Il vous faut une sonnette pour vivre. Et la rue exigeait un fantôme. Déjà, l'on commençait à murmurer sur le passage de M. Dutrourier. L'avait-il vu, comme il le disait? Il était difficile de mettre sa parole en doute. M. Dutrourier ne buvait guère et ne s'en portait jamais. Et on ne voyait pas non plus pour quelle raison il aurait inventé un spectre. Mais les bonnes âmes affirmaient que s'il avait réellement vu, il aurait dû le garder pour lui. On crut le spectre atteint d'agoraphobie. On le soupçonna de fuir la publicité. D'invraisemblable malivernes coururent sur son compte. Encore un peu, et on aurait fait un farceur. La rue se mit à bouder. Les moribonds perdirent du temps. Les naissances devinrent difficiles. L'explosion de gaz se produisit au 33, laissant au milieu du trottoir une énorme cavité pleine de pattes de langoustes. Ce fut une blessure grave, étrange, et l'on ne put s'empêcher de penser que le fantôme en était la cause. Il s'était vengé de l'incrédulité. Monsieur le droiturier, qui depuis quelques jours n'adressait plus la parole à personne, se précipitait à la rencontre des gens, comme pour les rassurer, comme pour prendre la défense de celui qui passait pour son complice. Mais dans le secret, il se réjouissait de cet éternuement de gaz, abcès noir, tout bouillant de caviar, qui avait rappelé à ses voisins que les fantômes sont aussi puissants que les ingénieurs. Ma concierge me conseilla de déménager. Un marchand de chansons, qui tenait boutique sous une porte cochère, mourut debout en fredonnant la valse brune. Il fallut l'autorisation du commissaire de police pour enlever ses produits qu'il fixait sur des cordes au moyen de pinces à linge. La rougeole parcourut les appartements comme un roulement de tambour. Un des conseillers municipaux de l'arrondissement qui habitait au 27, le seul peut-être de la grande famille troublée qui eut toujours refusé de croire à l'apparition, perdit son siège à l'hôtel de ville. Monsieur Droiturier triomphait. Souvent, rentrant chez moi au petit jour, je le voyais de ma fenêtre qui s'en allait à son travail, robuste et comme sonore. Il n'avait pas son fantôme sur lui, mais il en était riche, il en était rayonnant. Il semblait en disposer comme les hobereaux disposent de leurs terres. Vendent, bâtissent, invitent, sans avoir le moindre atome de cette terre dans leur poche. Un soir, j'eus l'idée de siffler avec mes doigts et de me cacher avant qu'il n'ait levé la tête. Le bruit parut comme un lasso et faillit ficeler Monsieur Dutourier, qui se mit aussitôt à dételer à toutes jambes sans se retourner. Son galop réveilla quelques habitants de la rue. Il n'était plus que quelques 3 ou 4 secondes de la sonnerie de leur réveil. Des lucarnes s'ouvrirent. Je vis apparaître des têtes ébouriffées le long des maisons, comme aux fenêtres des rapides. Et le soir, ma concierge me signala que M. Droiturier n'avait pas reparu. Mais comment le sait-on ? Bien, ce matin, on l'a vu se sauver. On a cru qu'il avait volé quelque chose. La boulangère, qui avait justement un fait-tout à faire étamer, est allée voir son patron. M. Droiturier n'y était pas. Personne ne l'avait vu. Oh, il rentrera plus tard, il s'amuse. Oh non, je suis sûr qu'il s'est bien sauvé. En emportant son fantôme, hasardai-je. Peut-être, dit la bonne femme. La nuit se passa sans incident. Interrogé plus tard par un inspecteur de police préposé au fantastique, quelques habitants soutinrent avoir entendu des ronflements de moteurs d'avion. Renseignement pris dans les formations militaires ou commerciales, aucun appareil n'avait survolé Paris ce jour-là. De son côté, le boucher affirma que, loin de s'expliquer par avion, le bourdonnement entendu ne pouvait être que terrestre et signifiait camionnette ou taxi. Et ce mystère dure encore. Nous vécûmes une semaine dans l'incertitude. Des journaux se jetèrent sur la chose comme des pêcheurs sur la sardine et publièrent qu'un certain monsieur Dutrourier, manœuvre de son métier, avait disparu assez mystérieusement de sa chambre, de sa maison, de sa rue et sans doute de son quartier, après avoir effrayé la population en prétendant qu'un fantôme habitait les parages. Ce soir-là, je crus entendre en rêve les premiers tintements, les premiers croquenots d'une croisade. On admettait encore que M. Droiturier eût disparu, mais on n'entendait pas que l'apparition fût mise en doute. Ce spectre était le monument du quartier, sa chanson de Roland, son obélisque, sa déclaration des droits de l'homme. Un plaisantin avait risqué cette opinion sur le zinc que M. Droiturier et le fantôme ne faisaient qu'un, ou plutôt une vision, faillit être lynché en plein bar. Mais le mot fit son chemin. Quel était ce monsieur droiturier? Les ménagères s'abordaient, s'emboîtaient l'une dans l'autre, heureuses et pourtant ennuyées de pouvoir débioter à loisir un homme qui avait vécu dans leur sillage, qui avait posé ses pieds là où elles posaient les leurs, et qui peut-être ne vivait plus. Assassin, bénéficiaire de quelques gros lots, happé par le cinéma, classé comme druide ou faiseur d'or, elles l'eussent oublié, mais l'ami d'un fantôme, pouvait-on le chasser d'une mémoire? On lui inventa une vie tour à tour attachante et perverse. Des jeunes filles passaient roses et maniérées, en appliquant leur génie utérin à faire croire à la rue qu'elles avaient partagé le lit du disparu. Tous les hommes du quartier avaient joué aux cartes avec lui. Et un soir, que je me rendais à l'opéra, j'aperçus un attroupement devant la maison déjà vouée à la plaque commémorative. J'étais en habit. Pincé par la curiosité, je me frayai un chemin à coups de coude dans le petit groupe afin d'arriver au premier rang. Ma tenue surprit les badauds qui me prirent pour le magicien appelé en consultation et on me poussa dans l'immeuble sans même me donner le temps de protester. Je montai le long escalier pourrissant dans une odeur de pipe et de cervelas. Tous les locataires étaient à la porte et me saluaient, mêlant à leurs gestes un étrange soulagement, une sorte de prière respiratoire réservée aux prêtres lamanistes. Enfin, j'arrivais au 7e étage. La porte de la soupente dans laquelle avait vécu monsieur Droiturier était ouverte. La pièce était vide. Trois hommes se tenaient au milieu. Je me joignis à eux sans les surprendre. Le mieux vêtu, qui ne pouvait être que le commissaire de police, me salua discrètement d'un regard tendre, me prenant sans doute pour un parent du disparu. Longtemps, nous restâmes silencieux à regarder les murs de cette chambrette immaculée, sans meubles, sans taches, dans laquelle tourbillonnait avec le plus pur silence une neige de mythes clignotantes. Pour vaincre le malaise qui peu à peu nous enveloppait, un des compagnons de celui que je prenais pour un commissaire de police murmura d'une voix enfantine « Il n'aura pas su quoi devenir avec son fantôme, il sera tué quelque part. » « Ah, premièrement, dit l'interpellé, le fantôme n'est pas un objet susceptible d'être dérobé. Deuxièmement, le vol, ou pour parler correctement, le rapt d'un fantôme, ne constitue pas un délit. « Oh, je suis pour le suicide, chef, dit celui qui avait parlé le premier. « Oh, le plus curieux, répondit le chef après avoir longtemps rêvé, le plus curieux de cette histoire, c'est que d'après les renseignements que j'ai pu obtenir, le nommé Dutourier n'avait jamais habité cette maison. Vous me direz que toute la rue, a commencé par le propriétaire de l'immeuble, prétend le contraire. Vous me direz que M. Dutourier a serré des mains, acheté des provisions, reçu des lettres. Eh bien, je vous répondrai que cela ne suffit pas. Si pourtant, en admettant que vraisemblablement, à moins qu'on ne puisse supposer, ait mis celui qui n'avait pas encore ouvert la bouche. Mais le commissaire, car c'était bien le commissaire, lui coupa la parole. Nous le vîmes réfléchir en s'arrachant sans broncher les poils des sourcils, ce qu'il ne devait faire qu'en certaines circonstances obscures. Puis il dit « Suivez-moi, il me vient une idée. Je vais poser en votre présence une question capitale à la foule. » Nous descendîmes, l'un poussant l'autre, les marches molles comme des gencives. Debout, à la même place, les locataires semblaient hors d'haleine. Pressentant quelques déclarations, nous emboîtèrent le pas. Et en arrivant au rez-de-chaussée, nous étions 50. Enfin, le commissaire s'arrêta, considéra d'un œil parlementaire la foule qui lui faisait face, construisit rapidement une phrase claire qu'il n'entendait pas répéter, leva la tête et demanda « Voyons, mes amis, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ait connu M. Droiturier avant l'apparition du fantôme ?» Personne ne répondit. Alors le commissaire se tourna vers nous et d'un petit ton de « noceur » murmura « Vous voyez bien ?» Naturellement, je manquais ce soir-là le premier acte de Tristan.